Bonjour à tous, nous sommes le 6 février 2023, il est 9h30 et c'est l'heure de votre journal, présenté par Adrien Dambly.
Bonjour Jules, bonjour à toutes et à tous. Circulation des trains perturbée en région liégeoise ce lundi matin suite au mouvement des accompagnateurs de trains lancé hier. Un tremblement de terre a secoué la Turquie et la Syrie voisine cette nuit. Le bilan provisoire dépasse déjà les 500 morts. L'enquête publique pour une tour de 15 étages à Coron-Meuse se termine aujourd'hui. Nathan nous en dira plus tout à l'heure. Et en fin de journal, du sport et de la culture pour résumer ce week-end, Jules n'a rien manqué. Le mouvement de grève lancé hier par les accompagnateurs de train se poursuit sur le rail. Pour rappel, une accompagnatrice a été agressée hier dans un train à Welkenrade, suscitant un mouvement de réaction de la part des travailleurs de la SNCB. Ce lundi sera donc marqué par des trains supprimés ou partiellement supprimés, comme à Liège-Guimin, où Nathan est allé prendre la température.
C'est embêtant, mais bon, en même temps, je comprends aussi. Ça ne va pas être facile pour eux s'ils ne savent pas travailler en sécurité. À leur place, je ferais pareil. C'est pas facile pour nous, mais on est avec eux quand même.
Moi, je les comprends très bien, ils ont bien raison. Et moi, si j'étais eux, je ferais carrément l'arrêt pendant très très longtemps. Voilà, c'est inadmissible, parce qu'on a bon faire de la prévention, il y a bon avoir des gardiens de la paix, la police, il y a plein de sécurité. Le problème, c'est que la garde, elle est ouverte. Rien à faire, il n'y a pas des portiques pour entrer, pour sortir. Les gens dorment ici. Moi, je comprends très bien, j'approuve et je dis même, allez-y, faites-la plus long, à long terme.
Et ce n'est pas un train supprimé, mais bien le Covid-19 qui a retenu notre collègue Thiago ce matin. L'occasion pour Marie-Laure de faire le point sur ce virus qui, malgré les apparences, est encore bien loin de nous avoir quittés.
Oui, Adrien, nous sommes loin de la folie de mars 2020 où la Belgique vivait un bouleversement dû à l'arrivée du coronavirus. C'était difficile pour les Belges de se déplacer, d'aller au travail et de vaquer à leur occupation. Des mesures ont pourtant été prises et les vaccins ont vu le jour. Hélas, en 2023, le coronavirus existe toujours et le Covid se vit encore auprès des populations belges. Le nombre de personnes porteuses du coronavirus en Belgique est en hausse avec 833 patients hospitalisés, dont 51 traités en soins intensifs. Avec un taux de reproduction supérieur à 1, les contaminations quant à elles repartent aussi à la hausse. Ressort-il des chiffres de l'Institut de santé publique Sciences Anou, mis à jour vendredi dernier. L'ennemi mondial revient en force avec comme une envie de vengeance, comme quoi on l'aurait oublié. Son objectif, relancer la pandémie. Pour stopper le coronavirus, les mesures barrières restent les mêmes, seulement elles ne sont plus imposées, simplement recommandées à la nation belge. C'est à nous, les habitants, de prendre des dispositions pour éviter la propagation du virus. C'est vrai que c'est long et ennuyeux. La preuve, Thiago est actuellement confiné dans son appartement. Et oui, c'est loin d'être terminé.
Nous l'avions appris le 23 janvier dernier, une enquête publique a été ouverte pour la construction d'une tour de 15 étages à Coron-Meuse. Et ce projet semble assez faire peur aux habitants du quartier. Un reportage de Nathan Close.
À Coron-Meuse, on peut aisément affirmer que le futur quartier Rive-Ardente commence à prendre forme. Mais, depuis le 23 janvier dernier, une ombre plane sur le projet. Cette ombre, c'est une tour de 59 mètres de haut qui serait aux antipodes de l'écoquartier qui avait été annoncé. Alain Jacquet, président du comité de quartier Jolivet-Coron-Meuse, rappelle que le problème n'est pas tant le projet en lui-même, mais bien sa dimension imposante.
Nous ne sommes pas du tout contre le projet immobilier. Malheureusement, le projet Rive-Ardente a tendance à s'élever vers le ciel. Donc voilà. Et ça nous inquiète beaucoup pour des raisons de pas tant de hauteur, encore une inquiétude à celui-là, mais le site se trouve au sud du quartier. Donc, une tour de 59 mètres, ça crée de l'ombre. Et donc, ça va ombrer tout le quartier, c'est-à-dire les habitants.
Mais en plus de la possible perte d'ensoleillement, Alain Jacquet déplore le manque de communication de la ville dans cette enquête publique, ainsi que le non-respect du chapitre 5, celui des directives d'analyse des demandes de permis d'urbanisme, adoptées pourtant par le collège communal.
Il serait bon qu'en tant qu'autorité publique, elle surveille un peu ce que ces promoteurs font. Il y a des limitations bien compréhensibles de gabarit dans tout le quartier. Par exemple, les quais, on a limité les gabarits. Et puis maintenant, voilà qu'on monte une tour de 59 mètres, qui est totalement hors gabarit. Malheureusement, l'affichage qui prévient les habitants du projet n'est pas adéquat. Vraiment, ça, c'est un peu se foutre du monde, pour dire ça comme ça, la manière dont ça, l'enquête publique est annoncée. C'est pas fait de manière très... Je ne parle même pas de professionnalisme, je parle juste de prudence.
Cette enquête se termine aujourd'hui à 16h et déterminera probablement le futur quartier à Coronmeuse.
Les producteurs de fruits et légumes belges se sont donné rendez-vous devant le siège de Comeos à Bruxelles ce matin. Ils demandent au secteur de la grande distribution une juste répartition des marges bénéficiaires et attendent une réponse concrète de la part des grandes enseignes alimentaires. Une autre action est prévue à Bruxelles également ce matin. Le collectif Power to the People a organisé dans le plus grand secret une action militante visant à interpeller les partis politiques sur la crise énergétique. Le mouvement citoyen réclame un blocage des prix ainsi qu'une socialisation du secteur des énergies. Des blocages devraient donc être organisés devant le siège des différents partis politiques. Dans l'actualité internationale, ce séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie voisine cette nuit, vers 4h du matin. On déplore déjà 284 morts et plus de 2000 blessés côté turc, contre 237 tués et plus de 500 blessés en Syrie. Le séisme a aussi été ressenti au Liban et à Chypre, mais là-bas sans faire de victimes.
Et hier, c'était les Grammy aussi, non ?
Eh oui, la 65e cérémonie des Grammy Awards a finalement décerné le Grammy de l'album de l'année à Harry Styles, alors que le magazine Billboard accordait déjà ce titre soit à Adele, soit à Beyoncé. La chanteuse américaine a néanmoins eu du succès, car elle est devenue l'artiste ayant obtenu le plus de Grammy Awards de toute l'histoire. Et maintenant, place au sport. Jules, peux-tu nous résumer tout ce qu'il faut retenir de ce week-end ?
Oui, bien sûr. Alors, au niveau du football, match nul ce week-end pour le Standard de Liège en Pro League, qui se neutralise 1-1 contre le Cercle de Bruges et maintient donc sa 6e place au classement. Les féminines du Standard, quant à elles, ont perdu 2-1 lors du Classico contre Anderlecht. Enfin, le RFC Liège a renoué avec la victoire en s'imposant également 2-1 à domicile contre Charleroi. Pour les autres clubs en province de Liège, Serein a battu l'OH Louvain sur le score de 2-1 et Eupen n'a pas réussi à s'imposer à Westerlo pour un score de 1-1. Et en handball, il s'est passé quoi du coup, Nathan ?
Eh bien, Jules, en Benelux, Vizé a perdu contre l'équipe néerlandaise d'Alsmeer, 27-30, tandis qu'en DA Dame, le HC Esprimont a émergé dans les dernières minutes du match face au féminin Vizé, 21-19.
Et en rugby, alors que le tournoi des 6 nations a débuté ce week-end, le Coq Mauzan a infligé une lourde défaite au RFC Liège en grande difficulté pour un score de 17-0. Vizé a reçu le Buc ce week-end et a fini son match sur une égalité parfaite, ce qui est très rare pour le sport. Enfin, en hockey sur glace, Liège a battu Malines en Beneligue 8-2.
Et pour terminer ce journal, on reste avec toi Jules, mais cette fois pour parler de culture.
Oui, hier on était le premier dimanche du mois de février et comme tous les premiers dimanches du mois, tous les musées à Liège étaient gratuits. Je me suis rendu au musée de la Vie Wallonne qui se trouve rue des Mineurs pour admirer la nouvelle exposition Ordures. Ce magnifique bâtiment qui a été rénové en 2008 accueille donc Ordures, comme je viens de le dire. La salle possède de très hauts plafonds et baigne dans la lumière naturelle, vu que c'est une ancienne église si vous ne le saviez pas. Cette atmosphère lumineuse donne une impression de grandeur à l'exposition, ce qui va très bien dans les décors colorés disposés en une organisation en cercle. Alors les décors sont faits avec des déchets réutilisés, ce qui aide donc à faire passer le message. Bon, à part les gros conteneurs qui se trouvent eux au milieu des pièces, qui ne sont pas faits en déchets directement.
Et au niveau de la communication et des informations, tu as appris quelque chose ?
Oui, le tour nous apprend pas mal de choses. Cela passe des raisons économiques et sociales de notre dépendance aux déchets, aux moyens de réutiliser les déchets comme le tanaké, qui est une forme de réutilisation de boîtes de conserve, jusqu'aux chiffres de notre belle Wallonie. D'ailleurs, la Wallonie est dans le top européen des bons trieurs, et malgré ça, on doit quand même enfouir 4% de nos déchets, soit 70 000 tonnes par an. Il y a plusieurs moyens pour faire passer les informations dans l'exposition, beaucoup de panneaux en carton recyclé, mais aussi des écrans pour diffuser des images, ce qui permet de bien réaliser la situation. Il y a même une imprimante 3D et une salle immersive remplie de miroirs. Les œuvres d'art sont belles et intéressantes, mais on sent spécialement l'envie d'éduquer et de sensibiliser sur la cause écologique. L'exposition dure une année entière et serait particulièrement intéressante pour les enfants. Ma visite a d'ailleurs été accompagnée de quelques familles qui découvraient avec effroi l'ampleur du problème des déchets dans le monde. Je vous laisse avec un petit fun fact que j'ai aussi appris là-bas. Eugène Poubelle était donc un préfet français qui a rendu obligatoire l'utilisation d'un réceptacle qui a couvert en 1884. Merci à lui, ça nous a été très utile, mais là on en a un peu trop à gérer, des poubelles.
Merci Jules pour ce message qui vient clôturer ce journal. Rendez-vous demain à 9h30. Belle journée à toutes et à tous.